Cours de philosophie politique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 10 novembre 1994.
La philosophie de la famille est-elle une partie de la philosophie politique et de l'éthique? Oui, on verra comment.
Une volonté expresse de Thomas d'Aquin, ça.
avait dans Aristote quelque chose qui permettait une vision chrétienne de la famille. Tandis qu'il n'y a pas de vision chrétienne possible de la famille dans Platon. Et c'est le néoplatonisme qui conduit à ces théories fausses aujourd'hui sur la famille. Il faut quand même voir d'où vient le mal. Et si on est profondément chrétien, on ne peut pas être néoplatonicien. De fait, il y a des quantités de chrétiens qui le sont. C'est pas à cause de ça qu'on doit dire que c'est possible. Celui qui voit vraiment ce que c'est que le néoplatonisme et Platon, on ne peut pas assimiler entièrement Platon. Par le point de vue chrétien, on est obligé de le transformer radicalement. Alors, soyons nets là-dessus et comprenons pourquoi. La grande raison, c'est que l'âme pour Platon est créée avant d'être unie au corps. Et donc c'est l'union du corps et de l'âme qui fait que Platon, la philosophie de Platon ne peut pas être chrétienne, ne peut pas être assumée par la foi. De fait, elle a aidé Saint Augustin à se convertir, c'est sûr. Mais ça, ça ne veut pas dire que ce que dit Platon est absolument vrai. Ça a été l'occasion. Mais qu'est-ce qui a converti Saint Augustin? C'est l'Esprit Saint. C'est pas Platon. Il faut reconnaître qu'on est. Qui a converti le cœur de Saint Augustin et l'intelligence de Saint Augustin? Mais Platon a été pour lui l'occasion de dépasser le manichéisme, de dépasser une philosophie qui restait, qui l'enfermait sur lui-même. Pour Aristote, l'éthique est une éthique premièrement personnelle. L'éthique repose pour Aristote sur le point de vue de la volonté, l'acte volontaire. Et l'acte volontaire fait que l'homme est responsable de son acte. Et ça, c'est la personne. Alors Aristote n'emploie pas le mot, mais la réalité y est. Saint Thomas dit explicitement qu'on ne doit pas juger une pensée philosophique à partir des mots qui y sont, mais à partir de ce qui fait cette philosophie, la pensée philosophique. Pour Aristote, c'est ça l'éthique. C'est une éthique qui regarde nos actions volontaires dont nous sommes responsables. Le choix libre. Et c'est une éthique du bonheur. Et quand Aristote commence l'éthique par le point de vue du bonheur, et il a raison. Aujourd'hui, on doit aussi rappeler ça. Homme désire être heureux. Et comment peut-il être heureux? Alors on essaiera de préciser. Mais c'est une éthique du bonheur. Pour moi, la première expérience du bonheur, c'est l'amour d'amitié. C'est la première expérience du bonheur. Et qui montre que le bonheur est possible. Ce n'est pas la réalisation d'une œuvre qui rend heureux, mais c'est l'amour d'amitié. Et Aristote précise que le bonheur ne peut pas être dans les biens matériels. Et donc, il étudie une éthique personnelle à partir de l'acte volontaire. Et il montre que la volonté regarde est le bien voulu par lui-même en premier lieu génétiquement, dans l'ordre génétique. C'est de rencontrer quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Parce qu'on peut aimer une personne comme une fin. On l'aime comme un bien qu'on aime pour lui-même. C'est comme ça aimer une personne. Une personne ne peut pas être aimée d'une manière utilitaire. Aimer une personne d'une manière utilitaire, soit pour la jouissance, soit pour l'argent, soit pour la gloire, ce n'est pas aimer quelqu'un. Et ce n'est pas le bien absolu. Le bien absolu, c'est aimer un bien pour lui-même, aimer la personne pour elle-même. C'est ça ce qu'il y a de grand. Et ça, c'est la finalité. Tant que je n'ai pas cette expérience d'un bien qu'on aime pour lui-même, je n'ai pas découvert la finalité. Or, l'éthique, au plan philosophique, au plan personnel, n'existe qu'au moment où je découvre la finalité propre. Mon bien propre, voulu pour lui-même. Et Aristote, après cette éthique personnelle, montrera une éthique politique. Et l'éthique politique présuppose l'éthique personnelle. Je crois que c'est ça le point de vue très particulier d'Aristote. C'est que, et là il y a quelque chose de commun avec Platon, c'est que la politique est d'abord, et elle se fonde en premier lieu, sur une éthique personnelle. Pour Platon, la politique se fonde sur la contemplation. Pour Aristote, elle se fonde sur une éthique personnelle. Et l'éthique personnelle se noue autour de l'amour d'amitié. Je précise un tout petit peu, mais c'est à l'état latent d'Aristote. Il faut que tous nous ayons lu pendant nos 3 années de philosophie ici l'éthique d'Aristote. C'est un livre à lire. Ça fait partie des grands livres qu'on doit lire. Mais le lire pas comme un roman le soir quand on est fatigué, mais le lire la plume à la main en essayant d'analyser. C'est pour ça qu'on fait un séminaire sur la politique d'Aristote pour apprendre à analyser un texte. Ça s'apprend. Et c'est la seule chose qu'on doit apprendre en philosophie. Apprendre, vous voyez ce que je veux dire? Analyser un texte. Et analyser autant que possible des textes qui en valent la peine. Analyser des textes qui sont des erreurs, vous perdez votre temps. Sauf Platon. Parce que c'est erroné, mais c'est grand. Alors, analyser des textes grands, c'est comme analyser en point de vue littéraire des textes de Camus. C'est grand. C'est pas perdre son temps. Analyser des grands, des artistes, on perd jamais son temps. Ce sont des œuvres. Et au plan philosophique, ce sont les textes qui nous conduisent à la vérité. Mais Platon conduit à la vérité parce qu'il a le sens de la contemplation. Et il a donné à Aristote le sens de la contemplation. Je ne sais pas si Aristote aurait découvert tout seul. C'est possible. Mais toujours est-il que c'est Platon qui lui a donné ce sens-là. Alors il y a ce qu'il y a de commun entre Aristote et Platon. C'est que tous les deux présupposent une éthique personnelle. Et que l'éthique politique est seconde, elle n'est pas première. Donc la finalité se découvre au niveau de l'éthique personnelle et non pas au niveau de l'éthique politique. Que va apporter l'éthique politique? Elle va apporter quelque chose d'essentiel à l'activité humaine. Puisque l'homme est naturellement un homme politique. Politique au sens aristotélicien, pas au sens moderne. Parce que je ne suis pas naturellement socialiste ou chiracien. Non. Je ne suis pas naturellement de droite ou de gauche, politiquement parlant. Parce que ça signifie pas grand-chose. La droite, la gauche, vous savez bien comment ça s'est pris. C'est tout à fait identique. Local. Vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Alors tous ceux qui sont politiquement à gauche se mettront à gauche, ceux qui sont politiquement à droite se mettront à droite. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de principes d'éthique personnelle en politique. C'est pour ça qu'on est devant une éthique qui est machiavélique. Parce que c'est le propre de l'éthique machiavélique de ne plus être moral et d'être une éthique uniquement de l'efficacité. C'est très important comme ça. Il y a quelques grandes éthiques qu'il faut, quelques grandes politiques qu'il faut comprendre. Ce qu'il y a de commun à Aristote et Platon, et c'est pour ça qu'on doit tout le temps les regarder ensemble. Qu'est-ce qui caractérise pour Aristote l'éthique platonicienne, c'est qu'elle recherche l'unité d'une manière qui n'est pas juste. Ça, c'est la grande critique d'Aristote sur Platon. Et on peut dire, c'est une éthique qui repose sur l'individu. Ou plus exactement, c'est une éthique qui repose sur la contemplation, qui est toujours personnelle et individuelle. Et donc, qui regarde en définitive l'homme individuel dans la perspective de la contemplation. Si j'ai une éthique qui se déduit de la contemplation, le fondement de cette éthique ne peut être que l'individu. Un individu qui est la personne. Pour Aristote, au contraire, la politique est nécessaire. Parce que l'homme est naturellement un homme politique. Pourquoi ? Parce que l'homme a besoin d'être éduqué. C'est la païdéia, l'éducation, qui montre la nécessité de la politique. L'homme naît dans un état de petitesse, plus petit et plus fragile que les animaux. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une famille. Et ça, c'est naturel. C'est la fragilité de l'être, de l'homme, dans sa naissance, qui réclame la famille. Et la famille ne suffit pas pour éduquer l'homme parfaitement. Mais elle est quand même le fondement, elle est première. Il faudra donc, en plus de la communauté familiale, une autre communauté qui permet à l'homme d'atteindre le bene vivere, le zen, le bien-vivre. Donc vous voyez, c'est important de voir que pour Aristote, le point de vue politique n'est pas conventionnel. Il est naturel, physicos. C'est naturel pour l'homme de vivre en communauté politique. L'homme qui ne vit pas en communauté politique, c'est le solitaire. Et le solitaire, ou il devient un dieu, ou il devient une bête. Donc, c'est la communauté qui permet à l'homme d'être un homme. Oui, l'homme est naturellement politique. Et parce qu'il est naturellement politique, c'est la communauté. d'être solitaire quand on a déjà vécu une vie de communauté. Et cela, Saint Benoît le reconnaît. Et cela, toute la grande tradition chrétienne l'a reconnu. Et c'est fondamental dans Aristote. C'est très important, ça. Vous voyez, on ne s'établit pas personnellement solitaire. On devient solitaire. Et on devient solitaire comme un dépassement de la vie commune. Pour aller plus loin dans la recherche de sa finalité. Parce que toute éthique est personnelle. Alors, l'aspect personnel se retrouve au terme, dans l'aspect solitaire. Et la politique est naturelle parce que l'homme est un être qui devient vertueux et qui acquiert progressivement l'habitude de sagesse. Et quand on a l'habitude de sagesse, on peut être solitaire. Mais tant qu'on n'a pas l'habitude de sagesse, c'est très dangereux d'être solitaire. Ça, je crois que c'est la structure même de l'aspect politique d'Aristote. Vous voyez, donc il y a quelque chose de commun avec Platon. C'est que l'aspect politique n'est pas premier, ni final, ni dernier. Ce qui est premier, c'est l'éthique personnelle. Ce qui est dernier, c'est la contemplation. Qu'est-ce qui est propre à Aristote ? C'est de comprendre que la politique, donc que la communauté politique, est enracinée dans la nature. Et parce qu'elle est enracinée dans la nature, elle a quelque chose d'original. Elle n'est pas commandée directement et immédiatement par la contemplation. Elle est commandée par le conditionnement de l'homme. Parce que l'homme doit devenir un homme, une personne humaine. Alors, la communauté aide à l'homme à devenir homme. Et ce sera la païdéia. L'éducation. L'éducation existe chez Platon et chez Aristote. Et ce qui serait très intéressant, c'est d'étudier la différence éducation platonicienne, éducation aristotélicienne. Parce que c'est là où on saisit le pourquoi de l'aspect politique. L'éducation est capitale pour comprendre la nécessité de la politique. C'est le cœur de la politique, c'est l'éducation. Et c'est ça que les socialistes ont gardé, les socialistes français. Ils ont gardé que pour un État, ce qui est capital, c'est l'éducation. Alors, l'éducation socialiste, c'est l'unité de la socialité. Et alors là, ils sont univoques. C'est l'État qui doit éduquer, et non pas la famille. Et donc, la socialisation poussée à bout supprime la famille. Ça, il faut le voir. C'est dans ce sens-là qu'un chrétien ne peut pas être socialiste à fond. Et quand vous avez un chrétien qui est socialiste, il n'est pas à l'aise. Il peut pas. Parce que le point de vue socialiste, au fond, supprime la famille. J'ai déjà dit à certains ce qui m'avait beaucoup frappé dans l'État d'Israël, au début, quand il était très à l'état pur. C'était la visite des kibbutz religieux. Parce que c'était c'est là où on appliquait le socialisme parfaitement. Alors on prenait l'enfant à la famille et on l'éduquait dans la maison commune par des infirmières, pédagogues. Et on permettait à la mère d'avoir l'enfant 2 heures par jour. Pas plus. Ça n'a pas duré, grâce à Dieu. 10 ans après, retournant dans un kibboutz religieux, on m'a pu parler de ça. Alors j'ai interrogé, comme c'était un bon espagnol, il a sûrement été catholique, et qu'il est venu. En retournant en Israël, il a repris ses origines. Et il comprenait très bien, il me disait, mon père, à tour de bras. Je voyais très bien son origine catholique, c'était très net, en bon espagnol. Alors j'ai interrogé, j'ai dit, mais est-ce que la famille a repris des droits? Alors il m'a dit oui. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que l'éducation socialiste ne pouvait pas remplacer l'éducation maternelle. Ça a été fait, ça a été prouvé expérimentalement. C'est ça qui est très important. Ça ne se dit pas assez. C'est pour ça que je le dis. Parce que je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Ils ont constaté que l'éducation socialiste faisait que l'intelligence des enfants ne se développait pas avec la même rapidité. C'est très intéressant à noter. Et donc ils sont revenus, comme ils ont un très grand sens de l'efficacité, ils sont revenus à l'éducation maternelle de l'enfant. Mais il a ajouté jusqu'à 14 ans. Parce que à 14 ans, commencent les crises familiales. C'est juste. Alors jusqu'à 14 ans, l'enfant est laissé à la famille. Mais à 14 ans, on reprend l'enfant. On en fait tous des pensionnaires. À 14 ans, plus que des pensionnaires. Parce que on règle le retour en famille très très mesuré. Il y a les camps de jeunesse Saint-Jean Éducation à partir de 14 ans. Et qui restent dépendantes de l'État. Alors, à 14 ans, il y a les tensions qui commencent, donc il faut arracher l'enfant. Puis il m'a expliqué. J'ai écouté. Puis quand il a terminé, j'ai dit, dans 10 ans, je reviens. Alors il a très bien compris. Il sourit. Il a dit oui. On verra si, au fond, c'est positif d'arracher l'enfant à la famille à 14 ans. Ou bien si c'est encore une idéologie. Enfin, le reste, les idéologies, ça ne paie pas. Au bout d'un certain temps, l'efficacité disparaît. Parce que l'idéologie par elle-même n'est pas source de fécondité. Et donc l'idéologie meurt par elle-même. Mais quelquefois ça dure longtemps. L'idéologie communiste a duré quand même assez longtemps. Et elle a péri d'elle-même. Le manque de fécondité économique. Très curieux, ça, et c'est intéressant de noter ces choses-là dans notre monde d'aujourd'hui, parce que nous en avons l'expérience. Et pour le constater. Pourquoi? Parce que ces idéologies suppriment la liberté. Et qu'un homme libre, un homme qui n'est pas libre, c'est comme un oiseau qui est dans une cage. Même si la cage est dorée, c'est une cage. Alors, il y a des oiseaux qui ne peuvent pas vivre en cage. On doit leur couper les ailes. Et là, ils sont plus féconds. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant de noter ces choses-là, parce que c'est le regard sur l'homme, et ça fait partie de la politique. C'est ce que la politique doit nous apporter, ça. De comprendre que l'homme est naturellement un animal politique. le respect de la famille. Parce que la vraie politique repose sur la famille. C'est la famille qui a la fécondité. C'est pas l'aspect politique. On n'engendre pas des enfants pour Hitler. On n'engendre pas des enfants pour Israël. On engendre des enfants pour Dieu. Tandis que du temps d'Hitler, on engendrait des enfants pour Hitler. Et du temps d'Israël, on engendrait des enfants pour Israël. C'est très curieux, ça. Vous voyez, c'est très très important de comprendre ça. Que seule une philosophie réaliste, c'est-à-dire une philosophie qui respecte la finalité, comprend que la famille seule est la communauté où il y a la procréation, où il y a la survie dans la procréation. Et donc, il y a une finalité de survie. La finalité de la politique, pour Aristote, c'est le bien-vivre. Mais le bien-vivre présuppose la vie. Alors, le zen, le bien-vivre, vous voyez, présuppose la vie et permet un épanouissement. Mais un épanouissement qui doit être finalisé par l'éthique personnelle. Et c'est l'éthique personnelle qui me fait comprendre que les deux grandes finalités de l'homme sont la contemplation et l'amour d'amitié. Les deux dépassements de la politique, c'est la contemplation et l'amour d'amitié. Alors, pour que le socialisme puisse s'exercer pleinement, il faut que ces deux finalités courbent la tête. C'est-à-dire qu'on n'aime plus vraiment. Et que la procréation se laisse mesurer par le point de vue politique. Ce qui est un mal. En Chine, le socialisme demande qu'il n'y ait plus qu'un enfant pour diminuer le nombre de Chinois. Mais comme le socialisme chinois est plus intelligent que le socialisme qui existait à Moscou, le socialisme chinois respecte dans certains États des choses tout à fait différentes. C'est quelqu'un qui a vécu là-bas qui me l'a dit. Mais dit quand on dit ça, c'est très vrai idéologiquement. Mais l'idéologie marxiste est appliquée différemment selon les États, selon les cantons. Et dans certains cantons, on voit des familles de 5 enfants, de 6 enfants. Parce que la vie est plus forte que toute idéologie. Vous voyez ? Quand vous voyez petite plante qui pousse sur du macadam. Vous comprenez ce que c'est que la Chine. La vie pousse à travers les méthodes, les idéologies les plus strictes. C'est très intéressant de voir ça. Bon, alors, pour Aristote, c'est très net. La famille, alors, est fondement de la politique. Alors, d'une certaine manière, elle est au-delà de la politique. C'est pour ça que la question posée est juste. Elle est au-delà de la politique. Elle a une liberté qu'elle doit garder à tout prix. Et qui la met au-delà de la politique. Le choix libre des parents. Dans l'amitié. Et le problème de la fécondité, c'est au-delà du point de vue politique. Le point de vue politique va donc et doit respecter la famille. L'État puisse réaliser pleinement sa finalité. Former des hommes, des personnes capables eux-mêmes de choisir quelqu'un, l'époux, l'épouse, pour former une famille. Au-delà de la communauté politique. Et c'est ça qui est très très curieux. Ce dépassement de la famille par rapport à l'aspect politique est capital. Mais en même temps, il y a un respect de la famille à l'égard de la politique. Et ceci pour pouvoir réaliser avec l'État, avec la communauté politique, une finalité commune qui est de former des citoyens, de former des personnes humaines capables d'orienter leur vie. D'orienter leur vie vers le mariage, d'orienter leur vie vers la contemplation, d'orienter leur vie vers une finalité religieuse ou confessionnelle. Alors, vous voyez tous les problèmes que ça pose. Cette implication de la famille dans l'État. C'est pas une séparation. C'est une distinction. Et si on en fait une séparation, il y a des choses qui vont plus. Et qui ne peuvent plus aller.